Chapitre 16. La route du royaume. Claudia. Instruction. La machine à faire du boucan. Les monarques. 1. Radar et moi, on approcha de l'embranchement signalé par un panneau qui indiquait la route du royaume sur la droite. Le panneau censé indiquer la route du front de mer, à moitié arraché, pointait vers le sol, comme si le front de mer se trouvait sous terre. Radar émit un aboiement rouillé, et je vis un homme et un jeune garçon venir du front de mer. L'homme prenait appui sur une béquille. Son pied gauche, enveloppé d'un bandage sale, touchait à peine le sol de temps à autre. Je me demandais jusqu'où il espérait aller sur une seule jambe. D'autant que le garçon ne l'aidait pas beaucoup. Il était encore petit et transportait toutes leurs affaires dans un sac en toile de jute qu'il faisait passer d'une main à l'autre et traînait parfois sur le sol. Ils s'arrêtèrent à l'embranchement et me regardèrent passer devant le panneau pour prendre à droite.
« Allez pas par là, monsieur !» me cria le garçon. « C'est le chemin de la ville hantée !»
Il était gris, mais moins que l'homme qui l'accompagnait. C'était peut-être le père et le fils, mais impossible de déceler une éventuelle ressemblance, car le visage de l'homme avait commencé à s'effacer et ses yeux à s'étirer. L'homme lui donna une grande claque sur l'épaule. Déséquilibré, il se serait affalé si le garçon ne l'avait pas retenu.
« Laisse-le faire, laisse-le faire !»
dit l'homme. Sa voix était audible, mais étouffée, comme si ses cordes vocales étaient enveloppées de mouchoirs en papier. Je songeais qu'avant longtemps, il émettrait des onomatopées et des bourdonnements comme Dora. Obligé de crier pour couvrir la distance grandissante entre les deux routes, cela le faisait souffrir visiblement. Et sa grimace de douleur renforça la laideur de ses traits presque effacés. Mais il était décidé à dire ce qu'il avait à dire.
« Hello, homme saint, devant lequel d'entre eux ta mère a relevé ses jupes pour que tu gardes ce beau visage ?»
J'ignorais de quoi il parlait, alors je ne répondis pas. Radar émit un faible aboiement.
« C'est un chien pas ou un loup apprivoisé ?»
En guise de réponse, l'homme frappa de nouveau l'épaule du garçon. Puis il me regarda avec mépris et fit un geste que je compris parfaitement. Certaines choses ne changent pas, apparemment, quel que soit le monde où vous évoluez. Je fus tenté de lui répondre par la version américaine, mais me retins. Insulter une personne handicapée, c'est nul, même si la personne handicapée en question est un connard qui frappe son fils et dénigre votre mère.
« Bonne route, homme saint !»
braya-t-il de sa voix étouffée.
« Puisse ce jour être le dernier de ta vie !»
C'est toujours agréable de rencontrer des gens sympathiques en chemin, pensais-je, et je repartis. Très vite, je les perdis de vue. 2. J'avais la route du royaume pour moi seul, ce qui me laissait tout loisir pour réfléchir et m'interroger. Ces gens saints, par exemple, qu'étaient-ils donc ? Qui était-il ? J'en faisais partie, évidemment, mais je me disais que s'il avait existé un annuaire des gens saints, mon nom aurait été suivi d'un astérix, car je n'étais pas originaire d'Empis, ainsi qu'on appelait cette région. Woody m'avait appris que Anna la géante venait d'un endroit baptisé Kratchi. J'avais été soulagé de l'entendre dire également que ma peau ne deviendrait pas grise et que les traits de mon visage ne s'effaceraient pas, car, affirmait-il, les gens saints étaient immunisés contre cette maladie. Cet échange avait eu lieu le matin même, au petit déjeuner, mais Woody avait refusé d'en parler davantage, sous prétexte qu'une longue route m'attendait et que je devais partir sans tarder. Lorsque je l'avais interrogé au sujet de Flight Killer, il avait simplement froncé les sourcils et secoué la tête. Il m'avait répété que sa cousine Claudia pourrait m'en dire plus, et j'avais dû me contenter de cette réponse. Néanmoins, les paroles de l'homme à la béquille étaient évocatrices. « Devant lequel d'entre eux ta mère a relevé ses jupes pour que tu gardes ce beau visage ?» Autre motif d'interrogation, le ciel perpétuellement gris. Dans la journée, du moins, car la nuit, les nuages s'écartaient parfois pour laisser apparaître l'éclat de la lune, ce qui semblait exciter les loups. Et puis, il n'y avait pas une seule lune là-haut, mais deux. L'une courant après l'autre. Je me demandais où je me trouvais au juste. J'avais lu suffisamment d'ouvrages de science-fiction pour connaître le concept des mondes parallèles et des terres multiples, mais j'avais le sentiment qu'en franchissant cet endroit du couloir souterrain où mon corps et mon esprit semblaient se séparer, j'avais peut-être atteint un autre niveau d'existence. L'hypothèse selon laquelle je me trouvais sur une autre planète dans une galaxie très lointaine n'était pas dénuée de fondement en raison des deux lunes, mais j'étais entouré de personnes, pas de forme de vie extraterrestre. Je repensais à ce livre sur la table de chevet de M. Bodich, celui dont la couverture représentait un entonnoir qui se remplissait d'étoiles. Et si j'avais trouvé le chemin menant à la matrice du monde dont il parlait? Je regrettais amèrement de ne pas avoir emporté ce livre dans mon sac à dos avec les provisions, les médicaments de radar et le pistolet de Paulet. Cette idée me rappela un film que j'avais regardé avec ma mère et mon père quand j'étais petit, L'Histoire sans fin. Supposons qu'Empis ressemble à Fantasia dans ce film, un monde créé par l'imagination collective. S'agissait-il également d'un concept jungien? Comment pouvais-je le savoir, alors que je ne savais même pas si le nom de ce gars se prononçait Jung ou Jung? Autant d'interrogations, mais celles qui revenaient en boucle étaient d'ordre plus terre à terre. Mon père, maintenant savait-il que j'étais parti? Peut-être l'ignorait-il encore, et comme on dit, l'ignorance est la condition du bonheur. Mais à l'instar de Woody, peut-être avait-il eu une intuition. J'avais entendu dire que les parents y étaient sujets. Il avait dû essayer de m'appeler, et comme je ne répondais pas, il m'avait envoyé un texto. Il devait se dire que j'étais trop occupé par des histoires de lycée pour répondre, mais ça ne durerait pas, car il savait que j'avais pour habitude, en garçon raisonnable que j'étais, de le rappeler dès que je pouvais. Je ne supportais pas de l'imaginer en train de s'inquiéter, mais je ne pouvais rien faire. J'avais pris une décision. En outre, je suis obligé de l'avouer, puisque j'ai décidé de dire la vérité, j'étais content d'être là. Je ne peux pas vraiment dire que je m'amusais, mais oui, j'étais content. Je voulais des réponses à 1000 questions. Je voulais voir ce qu'il y avait derrière la colline suivante. Je voulais voir ce que le gamin avait appelé la ville hantée. Bien sûr, j'avais peur de Anna, des soldats de la nuit, de cette chose ou de cette personne nommée Flight Killer, et de Gog Magog surtout. Mais j'étais grisé en même temps, sans compter qu'il y avait Radar. Si je pouvais lui offrir une seconde chance, je ne voulais pas la laisser passer. Là où je m'arrêtais pour déjeuner et me reposer, les bois s'étaient refermés des deux côtés de la route. Je ne vis aucune vie sauvage, mais les ombres étaient nombreuses. « Tu veux manger un bout, Radar ?» J'espérais que oui, car je ne lui avais pas fait avaler ses comprimés ce matin-là. Je sortis de mon sac une boîte de sardines que j'ouvris et approchai de sa truffe pour qu'elle sente la bonne odeur. Elle dressa la tête, sans se lever. Le pus continuait à suinter de ses yeux. « Allez, fifille, tu adores ça !» Elle réussit à faire 3 ou 4 pas dans la pente de la charrette, puis ses pattes arrière se dérobèrent. Elle glissa jusqu'en bas en dérapant et laissa échapper un aboiement de douleur aiguë. Elle heurta la terre dure sur le flanc et leva la tête pour me regarder en haletant. Le côté de sa gueule était maculé de poussière. J'eus un pincement au cœur. Elle essaya de se relever. En vain. Je cessai de m'interroger au sujet des gens sains, des gens gris, et même de mon père. Tout ça ne comptait plus. J'ôtais la poussière, la soulevais dans mes bras et la transportais jusqu'à une étroite bande d'herbe entre la route et la masse des arbres. Je l'allongeais là, lui caressais la tête et examinais ses pattes arrière. Rien de cassé apparemment. Mais quand ma main remonta vers les hanches, elle poussa un jappement et montra les dents, non pas pour mordre, mais à cause de la douleur. Tout me paraissait normal. J'étais certain néanmoins qu'une radio aurait montré des articulations salement enflammées et enflées. Elle but un peu d'eau et avala une sardine ou deux, pour me faire plaisir, je pense. J'avais perdu l'appétit, moi aussi, mais je me forçais à manger un peu du lapin grillé que m'avait donné Dora et de cookies. Il fallait alimenter le moteur. Quand je repris Radar dans mes bras, très délicatement, pour la remettre dans la charrette, j'entendis les râles de sa respiration et sentis ses côtes sous mes doigts. Woody avait dit qu'elle était en train de mourir, et il avait raison. Mais je n'étais pas venu jusqu'ici pour découvrir ma chienne morte dans la charrette de Dora. Je repris les ridelles et me remis en marche, sans courir pour ne pas m'épuiser, mais d'un bon pas. Tiens bon, Fifi, ça ira peut-être mieux demain. Alors tiens bon, pour moi. J'entendis sa queue frapper contre le fond de la charrette. 3. Les nuages s'assombrirent alors que je tractais la charrette sur la route du royaume, mais il ne plut pas. Être mouillé ne me gênait pas, mais cela risquait d'aggraver l'état de radar si elle avait le poil trempé, et je n'avais rien pour la couvrir. De plus, tirer la charrette risquait de devenir compliqué, voire impossible si une pluie violente transformait la route en terrain boueux. 4 ou 5 heures après la chute de radar, je dus affronter une côte raide et je m'arrêtais pour reprendre mon souffle, mais surtout pour regarder. Le paysage s'étendait devant moi, et pour la première fois, j'aperçus distinctement les tours de la ville. Dans cette lumière terne, elle prenait une couleur vert-olive sinistre, comme de la stéatite. Au loin, un haut mur gris se dressait des deux côtés de la route, à perte de vue. J'étais encore à plusieurs kilomètres de la ville, impossible par conséquent de déterminer sa hauteur, mais il me semblait distinguer une porte colossale au milieu. « Si elle est verrouillée, pensais-je, je suis mal. » Entre la maison de Woody et l'endroit où je m'étais arrêté pour me reposer, la route décrivait un long arc de cercle, mais à partir d'ici, elle filait en ligne droite jusqu'à l'entrée de la ville. Quelques kilomètres plus loin, les bois commençaient à refluer et je vis des charrettes abandonnées et ce qui pouvait être des charrues dans des champs en friche. Je remarquai autre chose. Une sorte de véhicule venait dans ma direction. J'avais de bons yeux, mais à cette distance, je n'arrivais pas à l'identifier. Ma main se posa sur la crosse du revolver de M. Bowditch, non pas pour vérifier qu'il était toujours là, mais pour me rassurer. « Tout va bien, Rada ?» Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule et vis qu'elle me regardait de l'avant de la charrette. Bien. Je saisis les ridelles et repartis. Mes mains s'étaient couvertes d'une jolie collection de cloques et j'aurais donné cher pour avoir une paire de gants de chantier, même une paire de moufles. Au moins, la route descendait maintenant. 2 ou 3 kilomètres plus loin, les tours disparaissaient derrière le mur d'enceinte de la ville à mesure que la route descendait, je m'arrêtai de nouveau. La personne qui venait vers moi semblait juchée sur un tricycle démesuré. Lorsque la distance entre nous se fut réduite, je découvris que cette personne était une femme et qu'elle avançait à vive allure. Elle portait une longue robe noire qui gonflait autour d'elle et impossible de ne pas penser, une fois encore, au magicien d'Oz. Notamment à la partie en noir et blanc, au début, quand Almira Gulch pédale sous le ciel menaçant du Kansas pour s'emparer du chien de Dorothy et le faire piquer parce qu'il l'a mordu. Il y avait même un panier en bois à l'arrière du tricycle, bien plus grand cependant que celui destiné à Toto sur le vélo de Miss Gulch. « T'inquiète pas, Radar, » dis-je, « elle ne t'emmènera nulle part. » Quand elle fut tout près, je m'arrêtai et agitai mes mains en feu. J'avais l'intention de me montrer amical si cette femme était bien celle que je croyais, mais j'étais prêt à me défendre et à défendre ma chienne si elle se révélait être la version locale de la méchante sorcière de l'Ouest. La femme s'arrêta en rétropédalant sur son tricycle dans un joli nuage de poussière. Sa robe se dégonfla et retomba mollement sur son corps. Dessous, elle portait d'épais collants noirs et de grosses bottes de la même couleur. Cette dame n'avait pas besoin des chaussures de Dora. Son visage rosi par l'exercice ne présentait pas la moindre trace de gris. Si j'avais dû lui donner un âge, j'aurais dit 40 ou 50 ans, mais ce ne serait qu'une estimation, car le temps est un phénomène étrange à Empis, à l'instar du processus de vieillissement. « Vous êtes Claudia, n'est-ce pas ? Attendez, j'ai quelque chose pour vous. » Je sortis de mon sac à dos le heurtoir en or. Elle y jeta à peine un regard, hocha la tête et se pencha par-dessus son guidon. Ses mains étaient enveloppées dans des gants en cuir que je lui enviais amèrement.
« Je suis Claudia ! J'ai pas besoin de voir ça ! J'ai rêvé que tu arrivais !»
Elle tapota sa tempe et émit un rire qui résonnait comme un aboiement.
« Les rêves ne sont pas fiables, mais ce matin j'ai vu le sommet de la colline. C'est toujours signe de pluie ou de compagnie !»
Sa voix n'était pas seulement assourdissante, elle était monotone, semblable à celle d'un ordinateur malfaisant dans un vieux film de science-fiction. Elle ajouta une précision superflue.
« Je suis sourde !»
Elle tourna la tête. Ses cheveux étaient relevés en un petit chignon et j'aurais pu voir son oreille, si elle en avait eu une. Comme la bouche de Léa et les yeux de Woody, ce n'était plus qu'une cicatrice. 4. Elle remonta ses jupes, descendit de son tricycle et marcha à grands pas vers la charrette pour regarder Radar. En passant, elle tapota la crosse du revolver dans son étui.
« Le flingue de Bodich ! Je m'en souviens ! Et je me souviens d'elle !»
Radar leva la tête quand Claudia la caressa et la gratta derrière les oreilles, ce que Radar adorait. Claudia s'approcha tout près, sans craindre d'être mordue visiblement, et renifla. Radar lui lécha la joue. Claudia se retourna vers moi.
« Elle est sacrément mal en point !»
Je hochai la tête. Inutile de nier.
« On va la retinquer ! Elle mange ?»
J'agitai la main. Coussi, coussa. « Vous savez lire sur les lèvres ?» Je tapotai les miennes et montrai les siennes.
« J'ai jamais vraiment appris !»
brailla-t'elle.
« Personne avec qui m'exercer ! On va lui donner du bouillon de bœuf ! Et ça, elle va le manger, non d'une pipe ! Ça va la remettre sur pied vite fait ! Tu veux que je la prenne dans mon panier ? On ira peut-être plus vite !»
Je ne pouvais pas lui dire que je craignais de lui faire mal aux hanches, alors je me contentais de secouer la tête.
« Soit ! Mais dépêche-toi ! Trois cloches, ce n'est pas long ! La journée est terminée ! Faut se méfier de ces satanés loups !»
Elle décrivit un cercle avec son gros tricycle, la selle se trouvait au moins à 1,50 m du sol, et y grimpa. Elle pédalait lentement et la route était suffisamment large pour me permettre de marcher à sa hauteur, si bien que Radar et moi, on n'était pas obligés de manger sa poussière.
« 6 km !»
cria-t-elle de sa voix monotone.
« Du nerf, jeune homme ! Je te prêterai volontiers mes gants, mais tes mains sont trop grandes ! Je te donnerai une bonne pommade quand nous serons à l'abri ! C'est ma propre recette et elle est rudement efficace ! Je parie que ça te fait sacrément mal !»